Je suis Raphaël Besson et je vais vous présenter le podcast du Lucas, une nouvelle collection de podcasts qui explore les transformations des politiques culturelles dans un contexte transitionnel. Créé par le Lucas, le laboratoire d'usage culture art société, ce podcast va s'intéresser à l'art collaboratif, au droit culturel, aux lieux intermédiaires ou aux pratiques artistiques amateurs et hors les murs. En donnant la parole aux artistes, aux professionnels, aux élus ou aux habitants qui tentent de réancrer les arts et la culture dans la société, on souhaite contribuer à l'écriture d'un nouveau récit politique culturel.
Mais pourtant, si un soir, on se met à chanter nos belles polyphonies, et que tout d'un coup, quelqu'un met une grande mesure de musique pop de merde au milieu, là, tout le monde va sursauter. On ne sursaute pas quand on voit une fenêtre en plastique. La bonne maison dit « j'existe, je suis ton partenaire », dit Kalnad, c'est un architecte suisse. Dans sa conférence, l'architecte développe l'idée de la fabrication de la culture, avant tout projet. C'est plus qu'une pensée, un projet d'architecture. C'est comment préparer une communauté à l'évolution des bâtiments qui construisent le paysage patrimonial de la commune où ils habitent.
On vient d'entendre Martine Bedin, architecte et designer, dans le cadre d'un enregistrement que j'ai effectué à l'université de Corse Pascal Paoli en février dernier à Corte. Martine Bedin est intervenue dans le cadre d'une conférence organisée par la chaire Mutation et Innovation Territoriale de l'université de Corse et intitulée « Quel habitat durable pour demain, enjeux et innovations pour la Corse ». On va donc s'intéresser dans cette émission à la question de l'habitat durable et interroger les ressorts culturels de l'habiter en Corse. Pour cela, nous avons recueilli les témoignages de personnes présentes lors de la conférence. Graziella Luizzi, directrice de la Fondation de l'Université de Corse, Lisandro Venturini, entrepreneur, Sébastien Sellery, architecte, Mélissa Leoni, chargée de mission énergie renouvelable et citoyenne au sein de l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie de la Corse, Marion Marchioni, ingénieur pédagogique pour l'école d'ingénieurs Polytech en Corse, Roberta Penucci, coordinatrice de la chaire User Experience for Smart Life de l'Université Côte d'Azur, et Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Enfin, et au-delà du cas Corse, nous échangerons avec Patrice Meyerbich, président de l'Observatoire de la diversité des droits culturels et coordonnateur de la chaire UNESCO pour les droits de l'homme et de la démocratie, sur la question des sens culturels du droit d'habiter. Bonne émission.
Graziella Luizzi, je suis directrice de la Fondation de l'Université de Corse et responsable scientifique d'une chaire, la chaire Mutation et Innovation Territoriale, qui a été ouverte il y a un peu plus de 2 ans par la Fondation de l'Université. Donc, dans le cadre de cette chaire, on interroge les territoires sur leur transformation à la lumière des grandes mutations contemporaines. Donc, on a évoqué de nombreux sujets, la question de l'accès aux soins aujourd'hui, notamment dans les milieux ruraux. On a parlé également d'autonomie énergétique dans les îles, de l'innovation dans des mondes agri et agro. Et là, plus récemment, on a apporté une journée sur la question de l'habitat, quel habiter demain en Corse. Donc, c'est dans le cadre de cette journée, en fait, qu'on a réfléchi collectivement à un habitat durable pour la Corse. Donc, un habitat plus sobre, mais aussi un habitat plus éthique et aussi au service de ses habitants. Donc, on a invité architectes, urbanistes, chercheurs, usagers, praticiens, mais aussi des élus pour aborder cette question, la place de l'architecture aussi dans la question de l'habiter, et c'est également comment on mobilise l'innovation technologique. Et puis on a parlé du vivre ensemble, donc une approche au service de cette nécessaire transformation de l'habitat. Ce qui nous intéressait aussi, c'était de voir comment toute cette réflexion s'inscrit dans un territoire comme la Corse, qui a sa singularité, hein, puisque la Corse, en tout cas l'histoire de la Corse, on peut la lire comme aussi un refus de standardisation, comme une affirmation aussi d'une spécificité insulaire qu'on a voulu aussi mettre en lumière durant cette journée. Et c'est une Corse aussi où on voit que les traces du passé, les traces de sa culture, de son histoire, eh bien, elles ne sont pas effacées, mais au contraire, où on revendique une identité propre, de façon collective, mais aussi individuelle. Et ce besoin de réaffirmation de notre identité, elle passe aussi par le lieu. Donc ça, c'était aussi je pense, quelque chose qui a été évoqué, notamment à la fin de la journée. Je pense à Martine Bedin ou Tony Casalon, qui sont aussi des artistes et qui ont vraiment mis en avant cette relation de chaque individu avec le lieu qu'il a vu naître et qui reste encore fondateur. On voit aujourd'hui que la question du village, c'est aussi un thème qui est important pour chacun d'entre nous et que le lien au lieu, d'ailleurs dont parle Augustin Berg, prend toute sa place. Et c'est aussi un thème qu'on a voulu mettre en avant aussi durant cette journée.
Stéphane Antorini, ancien producteur de spiritueux et tout nouvellement reconverti dans l'agriculture.
Sébastien Chelle, l'architecte.
C'est la vision de l'aménagement de l'île, en fait. Ouais. C'est comment vivre sur cette île, comment vivaient nos ancêtres et comment vont vivre nos enfants. On était 260 000 habitants en l'an 2000, on est 350 000 en 2024. Essentiellement, c'est que des apports extérieurs. Donc, il y a un changement de culture et nos enfants sont élevés avec cette culture qui est différente. Nous-mêmes, nous évoluons dans un monde qui est différent. Donc, comment, au travers de l'architecture et de l'aménagement du territoire, nous pouvons garder nos racines.
Vous vous retrouvez là-dedans?
Oui, je m'y retrouve. Et même le phénomène qui se passe en Corse, alors c'est toujours caricaturé chez nous, mais c'est ce qu'on observe, on va dire, même à l'échelle mondiale. La mondialisation, c'est-à-dire qu'on subit toujours l'apport et la dilution dans l'échelon supérieur dans lequel on s'insère. Alors aujourd'hui, comme on pourrait dire, on est à... Je pense qu'il faut agir contre le modernisme, ce que le modernisme nous a enseigné en tant que mouvement de pensée, et notamment ce qu'on a reçu comme enseignement dans les écoles d'architecture, c'est-à-dire la tabula rasa, c'était le grand principe, hein. C'est-à-dire intervenir sur un site, c'est une page blanche qui laisse libre cours à la création. Mais dans un site, s'il n'y a rien qui est bâti, il y a un tracé cadastral qui va correspondre à quelque chose, il y a eu un usage des sols, il y a une présence de l'eau, il y a eu des pratiques sociales, culturelles et humaines qui font que ça a marqué, même de manière immatérielle, et qui nourrissait toute une culture et une manière de vivre sur un territoire. Et bon, ça, c'est vrai que les derniers qui ont peut-être encore ça en pratique, moi maintenant ça devient de la théorie, c'est justement les agriculteurs.
Parce qu'aujourd'hui, on peut le voir à travers le cadastre. Les lieux ont des noms et ces noms viennent d'une réalité. On ne peut pas croire qu'on peut construire de partout ou aménager. Il y a des sols, il y a des courants d'air, il y a des forêts, il y a des sources d'eau. Il y a une réalité. Et ça, en Corse, on a très, très bien compris, car tous les lieux ont leur nom. Et quand on le traduit du corse au français, on comprend pourquoi ils ont ces noms-là. Parce que si on prend le temps d'y rester plusieurs mois ou de passer de saison en saison, on voit pourquoi ces lieux sont nommés de la manière. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est comment on peut sublimer un territoire tout en le préservant. Et pour ça, ce qu'on pense, c'est à l'aménager d'une manière durable, en respectant le lieu, en respectant, je dirais, la vision du lieu. Il ne faut pas que ça devienne ce qu'on va faire devienne une pollution visuelle. Alors, la beauté, ça peut être subjectif, et ça l'est, mais la réalité, c'est qu'un lieu, il a son histoire. Et encore, tous les lieux sont chargés d'histoire. On peut parler des lieux religieux, mais aussi des lieux habités, des lieux agricoles. On a encore une transmission de la culture qui se faisait autour de la cheminée. On se passait les prières le soir de Noël. On expliquait, on racontait ce qui s'était passé dans notre famille. Et ça, aujourd'hui, on le voit, on a de moins en moins de cheminées sur les nouvelles constructions. Il y a de moins en moins de lieux qui lient les générations. Et aujourd'hui, ce regard de l'architecte sur la construction, il est très important parce qu'il va nous permettre d'être le témoin et de passer le témoin à la génération future.
Mélissa Léogne, chargée de mission énergie renouvelable citoyenne au sein de l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie de la Corse. Donc, depuis 2021, nous avons créé, avec le soutien de l'ADEME et du Réseau national énergie partagée, le réseau Corse des projets citoyens d'énergie renouvelable. Alors, c'est quoi un projet citoyen d'énergie renouvelable ? C'est un projet qui inclut tout type d'acteurs, que ce soit des particuliers, des collectivités, des entreprises. Dans le financement d'une société dédiée à la production d'énergie renouvelable, que ce soit thermique ou électrique. Et donc, qui dit dans le financement, dit actionnaire et donc décideur. Donc, à l'instar d'un projet classique porté par un opérateur privé, un projet citoyen d'énergie renouvelable permet quand même 2 à 3 fois plus de retombées économiques sur le territoire, notamment le fait d'utiliser le marché local de l'emploi, d'avoir des dividendes que vous pouvez partager aussi bien avec les actionnaires, mais le plus important, c'est que ces dividendes, ces retombées, soient utilisées pour faire d'autres projets du territoire, comme des projets, voilà, de, par exemple, de mise en, on va dire, de partage du compost, des projets de pistes cyclables, des projets de rénovation énergétique, etc. Toujours ça en lien avec le développement durable. Et ensuite, vous avez aussi cette gouvernance collégiale, voilà, public-privé, où on va vers l'intelligence en fait collective. Hein, on essaye au plus près de concilier ces intérêts divers, hein, puisqu'on vient d'un horizon différent, mais on essaye d'avoir le but ultime, c'est de lutter contre le réchauffement climatique par voilà, l'implication des gens dans les transitions énergétiques. Donc après, on a sur ce réseau, le réseau Corse, Énergie à Nostre, on rassemble en fait des acteurs. Donc ces acteurs-là qui sont dans le financement, on les rassemble en fait à travers le réseau, à travers un maillage territorial. Et donc vous avez aussi bien des intercommunalités, des chargés de mission, vous avez des élus de collectivités, vous avez des particuliers, des associations, et qui sont en fait sensibilisés sur cette dynamique et également montent en compétences. Donc nous organisons avec Énergie Partagée, le réseau national des projets citoyens, des formations qui permettent de voir tout type de projets du territoire qui seraient applicables chez nous en Corse, et également de voir comment monter, d'avoir les clés, les outils pour monter sur le plan juridique, sur le plan financier, ce type de projet. Comment concerter, hein, parce que la concertation, c'est un outil essentiel pour éviter tout risque d'opposition à un projet énergétique. Comment collecter, parce que là, on sait que sur les projets d'énergie renouvelable, nous avons les subventions, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir des actionnaires, et donc des actionnaires, qui dit actionnaire, dit collecte de l'épargne. Donc, on a des modules où on va aller voir, on regarde quelles sont les façons pour collecter l'épargne citoyenne, qui est assez importante en Corse et qui, pour l'instant, reste au niveau des banques actuelles, au niveau des livrets d'épargne, par exemple, au lieu d'être utilisée de manière transparente sur des projets énergétiques. En tout, nous accompagnons depuis 2021 une dizaine de projets. Ça peut être aussi bien sur des projets de filière mature, comme le photovoltaïque, exemple sur des projets sur des toitures communales, privées, des projets de haut sol. Donc sur le photovoltaïque haut sol, on évite bien entendu les terrains agricoles, on est d'accord. Un projet citoyen, ça vise plutôt des projets sur des terrains en friche, donc des anciennes décharges, par exemple, sur un projet du côté de Saint-Antoine, Ajaccio, sur une ancienne décharge, avec la ville. On a des projets de méthanisation, donc avec des agriculteurs, où là, on allie la fois la gestion des déchets à l'économie circulaire et la production énergétique. On a des projets sur des cours d'eau, de micro-centrales hydroélectriques avec une commune. On a des projets aussi éoliens. Donc un projet éolien où là, on est plus sur du co-développement, c'est-à-dire on est avec un opérateur privé. Donc on accompagne l'opérateur privé à qui s'ouvre sur ce genre de dynamique, projet citoyen, parce qu'eux, ils ont l'habitude de développer des projets en mode classique. Et avec ce type de développement, on associe des acteurs publics qui sont propriétaires du site d'implantation, des communes, et d'autres acteurs qui souhaitent bien s'engager. Voilà, donc on essaye, voilà, de faire comme sur le continent. Hein, sur le continent, ils ont quand même 335 projets labellisés. Chez nous, on a un projet, sur les 10 projets que je vous ai dit, il y a un projet qui a été labellisé en phase de développement. C'est le fameux projet que je citais tout à l'heure de méthanisation avec les agriculteurs. Et après, ce qui est le plus aisé, en tout cas, parce que c'est quand même des projets de long terme, hein, les projets de méthanisation éolien, ce qui est plus aisé, ce serait de mettre en place des projets qui sont plus rapides, c'est-à-dire photovoltaïques, et notamment là un projet qui va être un peu plus, qui va sortir de terre plus rapidement, c'est des projets d'autoconsommation collective qui là allient à la fois des acteurs publics et des entreprises. She's proud of the fun now.
suis Marion Marchioni. Je suis ingénieure pédagogique pour l'école d'ingénieurs Polytech en Corse. Alors l'année dernière, j'ai eu la chance de faire un voyage d'études à Copenhague, où nous sommes allés dans le quartier de Nordenhaven, au nord de Copenhague, un nouveau quartier, un quartier qui se veut éco-quartier. Et dans ce nouveau quartier, il y a le bâtiment des Nations Unies. Alors à vérifier au niveau géographique, hein, si c'est exactement ça. Donc le bâtiment des Nations Unies qui est équipé donc, par exemple de panneaux solaires. Donc il y a 1400 panneaux solaires sur sa toiture. Des panneaux solaires qui permettent au bâtiment d'être le plus autonome possible en termes énergétiques, mais aussi qui permet de d'alimenter en surproduction le réseau local. Et il y a aussi donc des volets anti-solaires qui permettent durant l'été de couper les rayons du soleil pour éviter qu'ils ne rentrent dans le bâtiment et qu'ils chauffent l'air. Et en hiver, à contrario, ils viennent s'ouvrir pour laisser pénétrer la chaleur du soleil et donc réchauffer automatiquement le bâtiment, limitant ainsi à la fois le chauffage en hiver et la climatisation en été. Un autre point que j'ai trouvé très intéressant sur ce bâtiment, c'est le système de climatisation. Alors que nous sommes dans un pays qui est relativement froid, contrairement à la Corse qui aurait besoin de ce genre de solution, donc une économie d'énergie tout à fait intéressante. Il y avait donc une pompe qui captait l'air chaud de l'intérieur du bâtiment, qui l'injectait dans une canalisation qui se trouvait au fond du canal, donc au contact d'une eau à 17 degrés. Et ensuite, cet air chaud refroidi était réinjecté dans le bâtiment, permettant donc de limiter largement les besoins en climatisation. Et enfin, le dernier point qui me semble tout à fait pertinent pour la Corse, c'est tout ce qui est récupération d'eau de pluie. Donc sur ce bâtiment-là, on arrivait à récupérer pas moins de 3 millions de litres par an, juste en captant l'eau depuis la toiture et en la réinjectant au niveau de l'eau sanitaire.
Je suis Roberta Pennucci, je suis la coordinatrice de la chaire User Experiences for Smart Life, Home and Mobility, qui est appelée aussi la chaire UX. Cette chaire est portée par l'IMRED, l'Institut méditerranéen du risque de l'environnement et du développement durable de l'Université Côte d'Azur. Nous sommes donc basés à Nice. Et cette chaire partenariale vise à concevoir l'habitat de demain. Alors, pourquoi cette chaire a été créée? Eh bien, elle a été fondée à partir d'un constat. Le constat est que notre société évolue. Nous constatons un vieillissement de la population avec aujourd'hui plus de 20% de la population française qui est âgée de plus de 65 ans et ce pourcentage est destiné à augmenter à 30% en 2030. Nous passons une vie en intérieur avec plus de 80% de notre temps qui se passe dans des endroits clos. Malheureusement, la famille classique est en train de laisser place à de nouveaux contextes familiaux, avec aujourd'hui 30% des familles françaises qui sont des familles monoparentales et 30% des foyers qui ont une personne seule. Ensuite, la pandémie a accéléré le télétravail et a fait exploser de façon exponentielle de nouvelles façons de consommer, et notamment, je pense, aux livraisons à domicile. Et ensuite, le changement climatique qui nous impose une réduction de notre consommation d'énergie, eh bien, c'est évident que la société aujourd'hui est en train de faire face à des gros changements. Et donc, il paraît évident que même l'habitat doit s'adapter à ces gros changements sociétaux. Alors, dans la chaire, nous sommes, donc c'est une chaire partenariale, c'est-à-dire qu'il y a des industriels qui nous financent et qui travaillent avec nous, avec des ingénieurs, avec des médecins, des chercheurs, pour définir l'habitat de demain et pour innover pour que nous puissions être bien chez nous tout au long de notre vie. En effet, aujourd'hui, le développement des services numériques ambiants représente bien évidemment un potentiel d'innovation et de croissance économique important, mais il faut faire attention. Il faut savoir déterminer les besoins des usagers pour pouvoir leur proposer des services qui soient vraiment efficaces. Il faut que l'innovation et les technologies puissent vraiment améliorer la qualité de vie des gens. Donc, dans ce cadre, dans la chaire, avec nos partenaires, nous travaillons, à ce jour, nous avons 16 projets qui rentrent dans l'un ou l'autre des 5 axes de recherche de la chaire et qui correspondent aux caractéristiques pressenties de l'habitat de demain. C'est-à-dire que pour nous, l'habitat doit être adaptable, c'est-à-dire qu'il doit s'adapter à l'évolution des besoins instantanés au cours de la journée, mais même tout au long de notre vie. Il faut qu'il soit durable, il faut qu'il soit vigilant, c'est-à-dire qu'il doit prendre soin de la santé et de la sécurité de ses habitants. Il faut qu'il soit aimable, empathique, parce que chez nous est l'endroit où nous devons nous sentir au mieux. Et donc, c'est important que la maison, et quand je dis maison, ça veut dire le logement, ça peut être un appartement, une maison, peu importe, mais le logement doit être capable de sentir notre mood et de faire en sorte que nous puissions être au mieux chez nous. Et enfin, l'habitat doit être assistant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il nous aide à réaliser les tâches journalières. Alors, je vais vous présenter juste un exemple sur l'axe vigilant. Là, nous avons plusieurs projets, dont le projet identification des comportements à risque. Donc, imaginez une personne qui habite seule dans son propre logement. Et ça peut être une personne âgée, mais pas que. Ça peut être une personne célibataire, un parent qui a ses enfants, qui n'a pas la garde de ses enfants cette semaine, ou bien une famille dans laquelle les enfants sont en vacances et le conjoint est parti 3 semaines en Amérique. Et imaginez que on est, par exemple, je suis seule à la maison et je me suis cassé une jambe. Eh bien, il faut que la maison devienne vraiment une maison de compagnie et qui nous aide notamment à préserver notre santé. Donc là, pour ce faire, il y a déjà à ce jour des technologies disponibles, il y a des innovations en cours de développement. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de tester et implémenter, tester ces différentes solutions de monitoring. Du coup, il faut savoir que dans la chaire, nous avons un Limit Lab qui appartient à l'IMRED, qui est mis à notre disposition. Et donc là, nous pouvons tester les solutions. Et notamment, nous avons implémenté des caméras, nous avons implémenté des capteurs infrarouges, des capteurs multiples, par exemple, des capteurs qui permettent de détecter l'ouverture ou la fermeture du frigo, la présence dans le lit et d'autres. Et également le compteur électrique, bon, dont je ne vais pas vous parler maintenant, mais l'idée, c'est de... donc, nous avons implémenté ces solutions dans le Living Lab et nous devons les tester, nous voulons les tester pour en faire une évaluation socio-techno-économique de ces solutions. Alors, donc la chaire vise à concevoir l'habitat de demain et il y a beaucoup d'études qui sont faites autour de l'habitat de demain, mais très souvent, ces études ne concentrent que sur la construction elle-même, voire l'aspect énergétique. Alors que nous, dans la chaire, nous essayons vraiment d'avoir un regard à 360 degrés pour essayer de regarder tous les aspects liés au logement. C'est-à-dire qu'on regarde l'aménagement de l'espace, l'ameublement de l'espace, on regarde les aspects liés à la préservation de la santé et de la sécurité, on va jusqu'à l'alimentation personnalisée.
Je suis Christine Lecomte et je suis présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Dans l'acte architectural, il y a un vrai enjeu à valoriser la part de création et de culture aussi, plus que l'acte technique. Et si je peux poursuivre là-dessus, au XXIe siècle, en architecture, on est un peu comme au XXe siècle, juste après la guerre, au moment où Le Corbusier a commencé à définir les 5 points de l'architecture autour du béton et qui ont en fait fondé la façon dont on fait de l'architecture au XXe siècle, c'est-à-dire une architecture du béton normée avec les normes autour du béton. Et aujourd'hui, on se questionne sur la façon dont on va remplacer un matériau qui aujourd'hui est très énergivore, avec le ciment très consommateur de matière, avec le sable et très consommateur d'eau qui devient une ressource rare. On se tourne vers d'autres matériaux, les matériaux biosourcés, géosourcés, qui en fait créent une nouvelle forme d'architecture. Et on ne va pas faire avec les matériaux biosourcés, géosourcés, la même architecture qu'avec le béton. Donc typiquement, on est dans un moment aussi de création extrêmement forte du bâti. Et donc, d'où l'intérêt de donner un véritable poids à l'acte culturel en amont des projets, pour justement garantir que... on ne soit pas en train de faire l'architecture du passé, mais bien l'architecture du futur. Si on part, par exemple, de la question de la densité, en fait, la question dans la manière dont, aujourd'hui, en France, on prend la densité dans l'habitat. Donc, on est dans une politique qui veut arrêter l'étalement, tout le monde voit ce que c'est que le ZAN, etc. Mais on n'imagine pas que c'est un changement culturel à faire dans la manière dont on habite. On a un peu opposé d'un côté la maison individuelle avec son jardin où on avait accès à la nature, mais par contre on devait prendre sa voiture pour aller faire ses courses et faire ses loisirs. Et de l'autre côté, le logement collectif un peu moche mais en centre-ville, donc près des proximités, mais alors loin de toute la nature. Et en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'entre les deux, entre la maison individuelle basique et le logement collectif un peu pourri, pour le dire simplement, entre les deux, il y a une diversité de palettes architecturales possibles. Et ça, en fait, c'est aussi une façon de culturelle de penser l'habitat. C'est-à-dire qu'on doit arrêter une forme de standardisation, repartir de l'existant, savoir penser à ces typologies urbaines accrochées au territoire, mais ça veut dire aussi avec d'autres modes de faire. C'est-à-dire qu'un habitant va peut-être mutualiser des choses, mutualiser une cour commune, mutualiser des locaux, mutualiser la toiture du logement collectif, etc. Et donc, c'est d'autres façons de penser la ville avec un espèce de moyen de se dire on va partager. Ce qu'on a fait au XXe siècle, c'est de séparer l'urbanisme du zoning. Et ce qu'on doit faire au XXIe, c'est décloisonner et repartager.
Alors, on vient d'écouter Christine Lecomte, donc présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, et puis différents témoignages sur la question de l'habité, des enjeux culturels associés, et notamment sur le territoire corse. Alors, pour discuter de ces différents commentaires et témoignages par les protagonistes de cette émission, on a le plaisir donc d'inviter Patrice Meyer-Biche. Bonjour, Patrice.
Bonjour, Raphaël.
Vous êtes président de l'Observatoire de la diversité des droits culturels et coordonnateur de la chaire UNESCO pour les droits de l'homme et la démocratie sur la question des sens culturels du droit d'habiter. Donc ça tombe bien, puisque notre émission est en filigrane consacrée à cette question-là. Peut-être vous entendre sur une première réaction par rapport à tout ce qu'on a pu entendre comme type de témoignage avec un certain nombre de regards assez différenciés. Peut-être vous entendre sur un élément que vous souhaiteriez commenter.
Oui, avec plaisir. Donc, notre mission, ce n'est pas spécifiquement le droit d'habiter, c'est l'ensemble des droits culturels, la diversité culturelle. Et dans ce cadre-là, on travaille sur les droits culturels, le droit de participer à la vie culturelle, et à présent sur les dimensions culturelles de l'ensemble des droits humains, et notamment le droit d'habiter. Donc ma première réaction, c'est pourquoi ça donne un peu un cadre normatif ouvert dans le sens des droits humains, c'est-à-dire que les droits humains garantissent en fait véritablement des libertés de chacun. Et ça veut dire que ça devrait, le droit, passer du droit au logement, comme le droit d'avoir un toit salubre et utile, etc., à un droit d'habiter au sens plus large, mais aussi plus profond, permet d'une part une extension. C'est pas seulement, ça va du meuble à toutes les formes de territoire, à toutes les échelles de territoire, y compris le territoire national, mais y compris la terre, puisque habiter en un lieu concret, c'est avoir le droit d'habiter la terre. Et ça, c'est au niveau de l'extension et au niveau de la compréhension, ça donne une approche beaucoup plus anthropologique et ça permet de déployer le sens culturel au-delà d'une simple subjectivité, mais dans le domaine de l'intersubjectivité, c'est-à-dire que habiter, c'est rencontrer d'autres sujets, c'est rencontrer d'autres objets, et donc ça permet de mettre l'accent sur le singulier. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de définir l'action d'habiter comme action d'hospitalité pour soi, pour d'autres, avec d'autres, avec en quelque sorte toujours un pied dehors et un pied dedans. C'est la possibilité d'avoir toujours un lieu où on peut revenir chez soi, donc un lieu d'identité profonde, un lieu où l'hospitalité a quelque chose de, à la fois de généreux, d'ouvert et en même temps de réconfortant, mais un lieu où, en fait, on s'expose. On s'expose en laissant venir les autres, mais on s'expose aussi en reprenant des forces et pour pouvoir repartir vers les autres. Voilà, en titre de première réaction.
Très bien. Du coup... Comment ça se travaille aujourd'hui, cette question du droit de l'habiter? Au-delà, enfin, vous pouvez nous expliquer certainement des discussions qui sont en cours et des points de débat peut-être, mais comment est-ce que ça va se travailler, s'incarner, tout ce travail sur les droits d'habiter, droits de l'habiter?
Alors, comment ça va s'incarner? On ne sait pas encore trop. On sait quel est notre objectif. On avait rédigé il y a 17 ans une déclaration sur les droits culturels, lesquels droits à l'intérieur de l'ensemble des droits humains étaient à l'époque encore très largement sous-développés. Maintenant, ça se répand un peu partout. Mais on s'aperçoit que le mot culture est tellement restreint dans l'usage administratif et dans l'usage politique en général, qu'on ne va pas à la profondeur des choses, c'est-à-dire à cette dimension à la fois anthropologique, on pourrait dire aussi bien spirituelle que matérielle, que sensuelle, les deux étant inséparables, et c'est-à-dire vraiment ce qui fait que chacun a la capacité de toucher et d'être touché, pour dire bref, ou la capacité de voir, mais aussi d'être visible, d'être vu. Et donc l'idée, c'est que on veut montrer comment un droit de l'homme, qui par essence est de nature politique, elle définit une politique fondamentale. Si on définit correctement le droit d'habiter, ça veut dire que ça devient impératif pour toutes les politiques qui sont concernées pour sa réalisation. Est-ce qu'on arrive à définir un droit dans toute cette ampleur-là? Et ça nous paraît à la fois difficile, mais évident. Si on prend les situations de logements d'urgence, on voit bien qu'il y a des logements d'urgence qui se font d'une façon indigne et au mépris de l'identité des personnes. Donc, il ne s'agirait pas de définir un droit d'habiter de luxe pour ceux qui peuvent se payer un bon architecte, un bon emplacement, etc., mais de comprendre que dès le départ, dès l'action urgente, dès les actions de prévision politique, il faut comprendre l'être humain dans toute son amplitude physique, j'insiste, sensuelle, extrêmement sensible, et spirituelle. Je prends spirituelle au sens que dans une porte n'est pas qu'une porte, c'est un lieu entre soi et entre une pièce et une autre, une activité et une autre, l'intérieur de la maison et l'extérieur. Comme dit Gilles Deleuze dans son livre sur la peinture, il y a un très beau texte, c'est pas seulement, la maison n'est pas seulement une porte, une fenêtre, pardon, sur le monde, c'est une porte-fenêtre. C'est-à-dire que on peut regarder le monde depuis l'intérieur, mais on a aussi justement un pied dehors, un pied dedans. Donc, c'est comme un prolongement de la peau. Les droits culturels, c'est ce qui nous permet de vivre notre enveloppe. Notre enveloppe, non pas simplement comme un sac opaque qui nous protège, mais c'est aussi une enveloppe qui nous expose. Et la peau de l'habitat, qu'il s'agisse du meuble, qu'il s'agisse de la maison, qu'il s'agisse du jardin, qu'il s'agisse du quartier, etc., et plus loin encore, c'est une frontière. C'est une frontière qui se traverse, qui à la fois ferme et ouvre. Et toute cette dialectique nous permet de vivre les grandes dialectiques de l'identité, qui sont le temps court, le temps long, qui sont l'espace proche, l'espace lointain, qui touche en gros entre ce qui est intime et pas seulement ce qui est externe, mais ce qui est extime, c'est-à-dire là où on arrive à montrer quelque chose de soi, de profond à l'extérieur, et de rencontrer d'autres intimités.
Là, dans le cadre de cette émission, on a entendu un certain nombre d'acteurs, hein, de Corse, que ce soit au niveau de l'université, des praticiens aussi, des architectes, des artistes aussi qui ont pu s'exprimer. Comment est-ce que vous intégrez ça, ces spécificités territoriales liées à l'habitat? Comment est-ce que dans un droit qui, a priori, se pense comme universel, comment est-ce que ce droit intègre à un moment donné, ou cette réflexion sur ce droit d'habiter, intègre ces questions territoriales, locales, parce que chaque territoire a effectivement des manières propres justement d'habiter.
Oui, c'est assez amusant parce qu'il y a un peu plus de 20 ans, j'étais invité en Corse pour parler de l'identité culturelle corse. C'était essentiellement l'office du tourisme, donc on comprend l'objectif. Mais la personne qui m'a accueilli, c'était un vigneron. Et j'avais été avant dans un congrès de juristes au Conseil de l'Europe où vraiment ils avaient eu de la peine à comprendre ce que c'est que les droits culturels. Ils croyaient toujours que c'était du droit des minorités. Et là, j'arrive en Corse, le vigneron, il avait parfaitement compris. Il avait parfaitement compris que dans le lien à la terre, à la culture de la terre, à la polyactivité qu'on trouve beaucoup en Corse, où on a un patron de petite supérette qui est en même temps éditeur, parce que c'est ça qui lui plaît, etc. Eh bien, on touche dans un acte singulier d'habitation et d'organisation de son habitat avec les autres, on touche les valeurs universelles. Donc, si vous voulez, la dimension culturelle, puisque c'est ça qui nous intéresse à présent, la dimension culturelle ou le sens culturel de l'habiter montre que, comme il a été dit par, je crois pas, mais Christine Lecomte, c'est quelque chose qui se vit au singulier et qui se réinvente à chaque fois. Et on n'a pas simplement des grandes politique de zoning, comme elle a appelé, c'est-à-dire où il y a des grandes mesures qui auraient une valeur non pas d'universalité, mais de standard. Il faut faire une distinction extrêmement importante en ce que c'est qu'un standard qui aplatit. Il y a des nécessités en termes d'avoir des normes de sécurité qui soient des standards, mais un habitat, c'est quelque chose qui est singulier. Et c'est dans chaque situation qu'on doit trouver ce qu'on peut appeler un accord de valeur. Et il y a un accord de valeur qui n'est pas simple parce que, pour moi, toutes les valeurs sont en dialectique. Je disais tout à l'heure, le proche et le lointain, le temps court, le temps long, ce qui est dedans, ce qui est dehors, ce qui est fermé, ce qui est ouvert, les grandes dialectiques que développait Bachelard. Et chacun d'entre nous, nous sommes en face de ces dialectiques. Comment gérer la mémoire et le projet, etc. Et donc cela doit se réinventer à chaque fois. Et je pense que c'est pas mal pour une norme de droit fondamental, et justement pas au niveau d'une règle, mais au niveau de ce qui devrait orienter des choix profonds, c'est-à-dire chacun a plus de liberté de choix. Ça veut dire qu'une telle norme doit mettre l'accent, a priori d'abord, sur la participation de chacun et le débat, la négociation, le travail progressif, comme on le fait dans l'urbanisation. Et évidemment, quand on dit participation, c'est la participation au choix, mais c'est aussi la participation aux réalisations. Donc, beaucoup de vos intervenants ont parlé évidemment des partenariats publics, privés, associations d'habitants, etc., qui se font heureusement de plus en plus. Mais il s'agit de montrer que ce n'est pas simplement une adaptation à la sensibilité des gens, c'est un acte fondateur. C'est un acte fondateur qui doit à chaque fois être conçu comme innovant pour celles et ceux qui y participent. Et c'est à ce prix-là seulement qu'on peut avoir une durabilité. Une durabilité n'a de sens que si elle est adaptée aux désirs fondamentaux des personnes. Et encore une fois, si on a trouvé un accord de valeur, on pourra, pour la génération suivante, par exemple, reprendre cet accord parce qu'il est nuancé, parce qu'il est complexe, parce qu'il n'est pas coulé dans le béton, si j'ose dire. Et pour le modifier au fur et à mesure, autrement dit, il est multiplement adaptable.
Merci beaucoup pour ces réactions et à bientôt.
À bientôt.